La face obscure des banques. Dernier sujet traité au Café Repère de Château-Arnoux.
Isabelle Bourboulon, journaliste engagée, présente le livre noir des banques qu'elle a coécrit avec d'autres économistes et journalistes. Ce livre, estampillé Attaque et Bastamag, est un pamphlet qui dénonce les dessous opaques du système bancaire. Patrice, c'est toi qui as interviewé Isabelle de passage au Stendhal pour le traditionnel Café Repère. Alors, dans ce livre noir, les banques en prennent pour leur grade.
Oui, les banques étaient en effet au cœur des débats au Café Repère. Sorti en février dernier, en fait, il s'agit d'une enquête menée avec soin par des journalistes et des économistes du site d'information donc Bastamag et de l'association Attaque. Le livre dresse un panorama des effets néfastes de la finance toute puissante, un thème bien qui nous concerne tous. Pas étonnant alors qu'un grand nombre de personnes aient assisté à la conférence. La face obscure des banques, un sujet tellement vaste qu'une seule interview ne pouvait suffire. C'est pourquoi nous vous proposons donc un reportage en deux parties. Aujourd'hui, Isabelle Bourboulon évoque son livre et plus particulièrement les travers nombreux de la finance. Comment ça marche et surtout à qui elle profite. Je vous propose de l'écouter.
Notre livre s'appelle Le Livre Noir des Banques. Donc on a réalisé entre des journalistes et des économistes de deux associations, de Attaque et de Basta. Basta, c'est un site internet d'information. Donc c'est une œuvre collective, on a travaillé à plusieurs pour s'attaquer à ce sujet des banques parce que d'abord on se rend compte que c'est une préoccupation quand même des gens d'essayer de comprendre un peu cet univers de la finance dont on nous dit que c'est tellement compliqué, ça nous passe au-dessus de la tête, c'est un vrai rouleau compresseur. On sait vaguement que la finance est responsable de la crise dans laquelle on est, notamment en Europe en ce moment. Mais bon, on a voulu quand même se donner un petit peu la peine d'expliquer les mécanismes le plus simplement possible pour que ce soit accessible au grand public. Et c'est ce qu'on a fait avec un autre livre d'une vingtaine de chapitres. Ce sont des chapitres assez courts, donc on peut parfaitement, en fonction de ses intérêts, aller de l'un à l'autre sans être obligé de tout lire, parce que c'est vrai qu'il y a des choses un peu techniques. Mais dans l'ensemble, c'est un livre qui marche très bien, donc ça veut dire qu'il a trouvé son public. Et ça permet vraiment d'essayer de comprendre pourquoi cette finance est en train de détruire, mais vraiment sérieusement, nos sociétés, est en train de nous coûter très cher et est en train juste de devenir complètement folle au point de spéculer aujourd'hui sur la disparition de la biodiversité, de spéculer sur les produits agricoles, mais ça se fait déjà depuis longtemps, alors qu'on a quand même toute une partie des gens dans le monde qui ne mangent pas à leur faim, de spéculer sur les catastrophes naturelles dont on a encore des exemples récemment, mais il y en a de plus en plus. Et donc voilà, cette espèce de finance complètement débridée, qui n'est plus contrôlée, qui est un véritable danger, et que c'est ce qu'on a voulu dénoncer dans ce livre.
Vous parlez de plusieurs chapitres. Quels sont les chapitres, on va dire, les plus importants de ce livre ?
Bon, je dirais que le chapitre sur l'évasion fiscale, il est à la fois important et en même temps, je trouve qu'on commence à en parler beaucoup parce qu'il y a eu des gros scandales récemment avec la banque HSBC. Mais ce dont peut-être les gens ne se rendent pas assez compte, c'est que les banques sont toujours, certes, dans l'évasion fiscale, dans la mesure où elles sont les facilitatrices. Quelqu'un tout seul ne fait pas d'évasion fiscale sans déposer son argent à un moment donné dans une banque qui l'aide à faire fuir dans un paradis fiscal ou dans une autre banque de la même enseigne. C'est ce qui s'est passé avec le grand scandale qu'on a eu récemment avec HSBC, la banque HSBC, qui facilitait l'évasion fiscale entre HSBC France et HSBC Genève. Et puis une fois que l'argent arrive à Genève, après il peut partir vers les paradis fiscaux. Il ne reste pas forcément à Genève. Voilà, donc ce sont des scandales dont on parle beaucoup, mais on ne fait pas forcément le lien avec le fait que les banques, parce que c'est très rare que les banques soient mises en cause directement. Or, les banques, elles sont au cœur de ce système de l'évasion fiscale.
Et pourtant, lorsqu'elles ont des soucis, comme ça a été le cas en 2008, les fonds publics viennent les aider.
Les fonds publics viennent les aider parce que les États ont très peur d'un krach financier qui ferait que le système bancaire mondial pourrait s'effondrer. On a été très près de ça en 2008, on a eu vraiment un krach financier très important pour plusieurs raisons, parce que d'abord il y a eu des phénomènes spéculatifs, je ne vais pas revenir sur tout ça parce qu'on en a beaucoup parlé, mais ce qu'il faut savoir c'est que le système bancaire mondial il est très interdépendant. Les banques sont complètement connectées entre elles, interconnectées, et donc il y a ce qu'on appelle un risque systémique, c'est-à-dire un effet domino. Il suffit qu'une banque se casse la figure pour qu'elle entraîne avec elle un certain nombre d'autres établissements financiers. Et c'est ce que craignent beaucoup les États, parce que les États sont garants des dépôts des citoyens. Donc ça coûterait très cher aux États de devoir renflouer non seulement tous les citoyens, les dépôts particuliers ou les entreprises, mais également les banques. Et donc le système est fait en sorte que tout le monde se tient finalement. Et les banques ont un pouvoir de chantage absolument considérable sur les États, d'autant plus qu'elles sont devenues, notamment en France, des monstres absolus comme par exemple BNP Paribas. Le bilan de BNP Paribas est aussi élevé que le PIB français, 2000 milliards d'euros. C'est énorme. Donc c'est des banques qui sont devenues énormes et qu'on a laissé se développer petit à petit, comme ça, en fusionnant, en acquérant d'autres petites banques plus petites, etc. C'est devenu aujourd'hui des monstres. Ces monstres, en même temps, sont très fragiles parce qu'elles ont relativement peu de fonds propres. Elles spéculent avec nos dépôts à nous, donc les dépôts des particuliers. Et puis elles font des opérations sur les marchés financiers qui sont très risquées malgré tout. Donc le système est très fragile et ça je crois que les gens ne s'en rendent pas compte. On est tout à fait à la merci à nouveau d'un effondrement bancaire qui pourrait arriver sur une bulle internet ou sur l'immobilier comme ça a été le cas en 2008.
Les politiques sont on va dire coincées ou seraient-ils complices de cette situation ?
Il y a un système de consanguinité, je dirais, plus que de complicité. On a plusieurs chapitres dans le livre qui sont consacrés à cela. On s'aperçoit qu'entre dirigeants bancaires et membres des cabinets ministériels ou même ministres, tout ce petit monde, c'est une oligarchie qui est en fait très très proche. Emmanuel Macron, notre ministre des Finances, il illustre parfaitement ça. Il vient de la Banque Rothschild, il est aujourd'hui ministre. Quand il sera plus ministre, il retournera dans une banque. Et donc tout ce petit monde, finalement, passe d'un univers à l'autre, de droite ou de gauche. Hein. Là, il n'y a pas de différence à faire. Et donc tous ces gens se connaissent évidemment très bien. Et toute cette circulation qui est assez consanguine, moi, je ne sais pas comment le dire autrement, cette consanguinité, elle est extrêmement néfaste. Parce que finalement, tout le monde a intérêt à se protéger les uns les autres. Et voilà, il y a une espèce de logique comme ça qui fonctionne, qui à nous, nous est complètement étrangère, mais qui fait que les intérêts sont partagés. Les deux mondes se protègent l'un l'autre finalement.
Vous avez dit ce soir dans la réunion, la Banque centrale, une aberration. Pourquoi ?
La Banque centrale, par ses statuts, elle est effectivement une aberration dans la mesure où elle ne peut pas prêter aux États, dans ses statuts. Hein. Ça lui est complètement interdit. En revanche, elle peut prêter aux banques, et donc elle prête aux banques. Mais ce qui se passe, et c'est, qui est à l'origine d'ailleurs de la dette, notamment de la Grèce, c'est que la Banque centrale prête aux banques à un taux extrêmement faible, de 0,1 ou 2 ou 3%, et en revanche, les banques, elles, reprêtent aux États à des taux beaucoup plus importants. Donc les banques se font évidemment de l'argent sur les dettes, ce qu'on appelle les dettes souveraines, les dettes des États, et grâce à la Banque centrale européenne. C'est aberrant dans une certaine mesure, parce que si la Banque centrale pouvait prêter aux États directement, le système fonctionnerait déjà un peu mieux, parce que les dettes seraient à la Banque centrale européenne et non pas aux banques. Or, les banques se financent grâce aux dettes. Les banques gagnent beaucoup d'argent grâce aux dettes des États.